L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, la démission d'un parlementaire en Suisse, démission pour des propos jugés outranciers. Au Canada, on verra pourquoi il devient urgent de remplacer la flotte des brise-glaces. Au Cameroun, quid de la République d'Ambazonie que revendiquent les séparatistes anglophones. Et puis dans l'actualité également, la Belgique qui va punir plus lourdement les squatteurs. Et enfin, la polémique en France, polémique sur la présence du drapeau européen au sein de l'Assemblée nationale. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Au Canada, Dominique Brassard, la personnalité de la semaine, c'est cet ancien astronaute nommé gouverneur général. C'est une fonction d'ailleurs comparable à celle du chef de l'État au Canada. Hein?
Parce qu'elle est la représentante officielle de la reine Élisabeth II au Canada. Il s'agit de Julie Payette qui s'est rendue à deux reprises dans l'espace. Elle assume aussi les fonctions de commandante en chef de l'armée et de gardienne de la Constitution, mais son rôle est surtout protocolaire. Dans les faits, c'est le gouvernement qui prend les décisions.
En France, grosse interrogation cette semaine sur le réel pouvoir du ministre de la Transition énergétique, l'écologiste Nicolas Hulot, qui certes fait ce qu'il peut pour empêcher la commercialisation d'un herbicide jugé cancérogène très utilisé par les agriculteurs, mais qui, face au lobby agricole, doit remiser ses ambitions à la baisse, à tel point qu'un Français sur deux estime désormais que la politique du gouvernement n'est pas une bonne chose pour l'environnement et que dans cette histoire et dans l'équipe gouvernementale, Nicolas Hulot en est réduit au rôle de caution écologique. En Suisse, Joël Marchetti, votre personnalité de la semaine, eh bien tout de même, c'est un prix Nobel.
Oui, le Suisse Jacques Dubochet, désormais retraité, a en effet reçu le Nobel de chimie cette semaine. Homme passionné, au caractère pour le moins enjoué, il développe toujours avec humour son parcours et ses observations sur la société. Comme le dit son CV, Jacques Dubochet a été conçu en 1941 par des parents optimistes. Personnalité atypique, engagée, en 1955, il est détecté comme le premier dyslexique officiel de son canton. C'est grâce à l'appui d'un directeur d'école informé et compréhensif qu'il peut néanmoins persévérer sur la voie des études. Avant le Nobel, ses recherches dans le domaine de la cryomicroscopie électronique lui avaient déjà valu une renommée internationale.
Je vous propose de nous déhancher maintenant. Grâce à RFI, Charlotte Hydrac, vous nous présentez un maître du coupé-décalé.
DJ Arafat, c'est lui qui a été élu meilleur artiste de l'année au Coupé Décalé Awards à Abidjan pour la deuxième année consécutive. Et donc voilà ce que ça donne. Le coupé décalé, ce genre musical en Côte d'Ivoire, né il y a 15 ans maintenant, à la fois basé sur la danse, sur la frime et sur la sape, c'est toute une attitude avec ses boucantiers, ceux qui font du boucan et une nouvelle génération qui a repris le flambeau.
Faites du bruit, faites du bruit. On va aller en Belgique. L'imam de la grande mosquée de Bruxelles est prié de quitter le pays. Plus clairement, Anne Goderno, le secrétaire d'État à l'asile et aux migrations, a décidé de lui retirer sa carte de séjour.
Pour Théo Franken, Abdelhadi Sewif est salafiste, radicalisé, très conservateur et dangereux pour notre société, notre sécurité. Le secrétaire d'État se base sur un rapport de la Sûreté de l'État qui analyse les prêches de l'imam depuis 2014 et qui en conclut donc qu'il favorise le communautarisme. Abdelhadi Sewif est un homme discret, arrivé en Belgique il y a 13 ans, plutôt rare dans les médias. Il a quand même fait parler de lui au lendemain des attentats de mars 2016. Il avait refusé de consacrer une prière aux non-musulmans victime du terrorisme à Bruxelles. Alors en lui retirant sa carte de séjour, on se rend compte que c'est la grande mosquée de Bruxelles qui est aussi dans le collimateur des autorités, précisant que l'imam a déposé un recours contre cette décision de lui retirer donc sa carte de séjour.
En Suisse, Joël Marchetti, un parlementaire a donc fini par démissionner après avoir tenu des propos jugés scandaleux.
Oui, l'écologiste Jonas Fricker a lancé la polémique lorsqu'en plénum au Conseil national, au cours d'un débat sur l'alimentation, il a comparé le transport de masse de porc à la déportation des Juifs à Auschwitz. L'élu vert s'était excusé de ses propos. Il a dit qu'il considère que l'Holocauste est un crime ne souffrant aucune comparaison. Ses excuses ont par ailleurs été acceptées par plusieurs représentants des communautés israélites. Mais après plusieurs jours de polémique et d'articles dans la presse, Jonas Fricker a annoncé il y a une semaine sa démission.
Oui, Joël, des démissions de ce genre en Suisse, c'est assez rare.
Oui, ces démissions ne sont pas dans la culture politique suisse et cette démission a suscité elle aussi une polémique, notamment entre médias. Par exemple, le quotidien Tagesanzeiger écrivait « Le boulevard triomphe, le citoyen déchante », tirant ainsi à boulet rouge sur la presse de boulevard accusée d'avoir entrepris une campagne de démolition contre l'élu écologiste. Écoutez par ailleurs ce que disait de cette affaire la socialiste Adamara.
Dans cette affaire, il était extrêmement seul, il a été lynché par les médias d'abord, par son parti ensuite, en tout cas certains de ses représentants éminents. Donc je crois que c'est sa conscience, c'était sa seule porte de sortie pour pouvoir prouver sa bonne foi. Dans cette non-affaire, M. Fricker a dit une énormité qu'il n'aurait jamais dû dire, je crois qu'il en a pris conscience, mais il n'a plus su comment faire face à ce torrent de boue qui lui est tombé dessus et c'est sa voie de sortie.
Naturellement, personne ne justifie le propos de Jonas Fricker, mais sa démission, malgré ses excuses, ses regrets et ses explications, marque un événement inhabituel dans un débat politique habituellement bien plus apaisé.
On part au Canada, Dominique Brassard, avec à propos de la vétusté des brise-glaces de la garde côtière. Elle fait craindre pour les activités portuaires du pays. D'ailleurs, un document gouvernemental sonne l'alarme et des milliers d'emplois sont menacés si Ottawa ne remplace pas ses brise-glaces rapidement.
Parce que déjà, ces brise-glaces tombent souvent en panne. L'hiver dernier, des navires de transport sont restés coincés dans les glaces du Saint-Laurent. Serge Le Guélec dirige une entreprise spécialisée dans le transport.
Il y a eu des retards de livraison dans tous les secteurs d'activité dans lesquels on œuvre. On n'a pas le luxe d'attendre. Il faut bien comprendre qu'on est dans un monde commercial qui est hautement compétitif.
L'âge moyen de ces brise-glaces canadiens est de 35 ans et malgré cela, le gouvernement fédéral tarde toujours à en acheter de nouveaux.
Oui, et si rien n'est fait, Dominique Brassard, plusieurs ports canadiens pourraient s'en trouver désavantagés.
Voilà, le document consulté par Radio-Canada indique que les activités des ports de Montréal et aussi de Québec pourraient être compromises. Évidemment, s'inquiète le vice-président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Pierre-Yves Boivin.
Il y a le long de l'estuaire du Saint-Laurent toutes sortes de zones industrielles qui dépendent de l'approvisionnement régulier de navires en provenance de l'étranger pour leur fournir soit les matières premières ou pour expédier les produits pendant toute l'année. Donc, c'est une question d'accès à nos marchés internationaux.
Et des marchés internationaux qui se diversifient avec la signature récente de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne et les ports du Canada prévoient une augmentation du trafic maritime à condition, bien sûr, que les brise-glaces fassent leur travail.
En Afrique, Charlotte Hydrac, gros plan à présent sur l'Ambazonie.
C'est le nom de l'État, entre guillemets, que revendiquent les séparatistes anglophones au Cameroun. Dimanche dernier, le 1er octobre, ils ont symboliquement proclamé l'indépendance des régions nord-ouest et sud-ouest. Le Cameroun, on le rappelle, c'est un pays bilingue, hein, français-anglais. Il fait partie à la fois de la francophonie et du Commonwealth. C'est un héritage du passé colonial. Le problème, c'est que la minorité anglophone se sent marginalisée et cela fait des mois que ça dure.
Le problème, depuis le début, c'est que les jeunes ont intégré le fait que quand ils vont à l'école, ils doivent avoir du travail à la sortie. Mais aujourd'hui, ils constatent que quand ils sortent des écoles, ils n'ont accès à rien. D'où cette colère.
La colère et le mouvement de contestation s'est récemment durci, radicalisé, d'où ce coup d'éclat dimanche dernier, cette indépendance symbolique. Et dans la douleur, les autorités parlent de 10 morts, 17 selon Amnesty International. Les autorités qui organisaient le même jour des manifestations pour célébrer au contraire l'unité nationale.
Merci d'être venu exprimer votre solidarité fraternelle à nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui souffrent énormément des inepties chimériques d'un groupuscule, je dirais même d'une clique.
Pas question de sécession ni de fédéralisme pour le pouvoir et pour le moment, c'est l'impasse. Le gouvernement appelle au dialogue, mais avec des conditions. Les séparatistes devront d'abord demander pardon.
En Belgique, Anne Goderno, les squatteurs pourront être désormais poursuivis plus lourdement au pénal.
Jusqu'ici, occuper illégalement un bâtiment était uniquement poursuivi par le Code civil. Mais les choses changent puisque la Chambre a adopté hier une proposition de loi qui prévoit des sanctions pénales pour les squatteurs. Les squatteurs, même s'ils ne touchent à rien, du simple fait d'occuper illégalement un bâtiment, risqueront une peine de prison et ou une amende. Les associations qui militent pour le droit au logement ne comprennent pas. Nicolas Bernard est professeur de droit à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Il est aussi le président de la Fédération bruxelloise de l'Union pour le logement.
La nouveauté de la loi, c'est que même rentrer sans rien casser constitue une infraction. Et donc, on veut faire sortir les gens par un délit, par un flagrant délit, par l'intervention de la police. Et il y a là, pour moi, de l'ordre de la disproportion. On ne va pas déployer tout un arsenal pénal, répressif, le parquet, etc., à propos de biens qui sont de toute façon vides depuis parfois des années.
Et des associations qui ont d'ailleurs mené une action de protestation.
Oui, en bloquant très brièvement la maison des parlementaires à Bruxelles. Ces associations parlent d'une criminalisation des plus fragiles. Il est de plus en plus difficile pour certains de trouver un toit dans le privé. On sait qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Et ce ne sont pas les peines de prison et des amendes pouvant atteindre 2400 euros qui vont arranger les choses.
En France, pour ou contre la présence du drapeau européen au sein du Parlement français, les députés du mouvement La France Insoumise, les députés à gauche de la gauche, ont tenté de faire passer un amendement pour retirer le drapeau européen à côté donc du drapeau français dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que pour les insoumis, l'Europe est un sujet qui divise les députés. Question de souveraineté, l'Europe serait donc la cause de tous les maux des Français et les insoumis ont donc proposé de remplacer cet emblème européen par un autre drapeau, celui de l'ONU. Proposition finalement rejetée en commission des lois. Et au passage, quelques députés, de droite notamment, ont dénoncé dans cette tentative une convergence de vues entre l'extrême droite et les insoumis. C'est par exemple ce que pense le député de la Manche, Philippe Gosselin.
Cette position de la France insoumise rejoint celle du Front National. Et j'aurais tendance à dire que tous les populismes dans ce cas-là se valent sans doute.
Voilà pour le tour d'horizon de la semaine francophone. Merci à tous les quatre. Le prochain rendez-vous, ce sera dans une semaine, au même endroit et à la même heure.